Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle et dernière conférence de presse en public. Vous connaissez le principe, vous pouvez poser des questions, vous levez le doigt, mais auparavant j'amorce un petit peu la présentation des spectacles. Alors aujourd'hui, deux spectacles, La Place du Singe avec Mathilde Monnier et Christine Angot, que nous recevrons tout à l'heure, et tout de suite, vous l'avez reconnu, Jean-Louis Trintignant, accompagné de Grégoire Cornulic, qui est le violoncelliste qui vous accompagne, Jean-Louis Trintignant, et que vous m'avez présenté comme tout à l'heure étant la moitié de l'orchestre.
L'autre moitié arrive dans un moment. Ils sont deux.
L'autre moitié étant David Mille, qui est donc l'accordéoniste et le compositeur de certaines musiques. Donc Jean-Louis Trintignant, vendredi 22, la cour d'honneur, vous lisez Apollinaire. La dernière fois que vous avez été dans la cour, c'était en 62 pour une pièce de Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Est-ce que pendant 43 ans, vous avez rêvé de revenir sur cette scène-là?
Je n'ai pensé qu'à ça.
Je ne vous crois pas.
Presque.
Pourquoi?
Parce que c'est magique, parce que c'est merveilleux. Une soirée, s'il n'y a pas de vent dans la cour d'honneur, c'est un bonheur. Mais s'il y a du vent, c'est une catastrophe. Pour le moment, on est en période de catastrophe, mais demain, il fera beau, il paraît, il n'y aura plus de vent.
C'est le vigneron qui parle, là, c'est le paysan qui parle.
J'aime bien, ça ressemble un peu à la vigne. C'est-à-dire que on a beau se donner beaucoup de mal, on a beau travailler bien, la saison est pas bonne, si le raisin est pas bon parce qu'il a plu juste avant les vendanges ou des choses comme ça, la récolte sera pas bien. Et la cour d'honneur, c'est ça. On a beaucoup travaillé, le spectacle, mais s'il n'y a pas de vent, ça peut être magique, et s'il y a du vent, c'est raté. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Louis Trintignant, pour que ce rêve puisse enfin se réaliser 43 ans après vos premiers pas dans la cour d'honneur?
Bêtement, j'ai pris le train une fois en hiver, cet hiver, à la fin de l'hiver, et j'étais assis à côté d'un monsieur que je ne connaissais pas, c'était le directeur du festival, le co-directeur du festival, c'était Vincent Baudrier. Et alors, il m'a parlé du festival, et moi, je lui ai parlé du rêve de jouer dans la cour d'honneur, et il m'a pas dit oui, et on s'est séparés à Paris, et quelques jours après il m'a téléphoné en me disant: mais si vous voulez, c'est très bien, le 22. Voilà, alors depuis je sais que c'est le 22 juillet.
Et vous avez consulté votre calendrier, il se passait rien ce jour-là?
Oh, même si c'était passé quelque chose, il aurait fallu vraiment que je sois complètement impotent pour ne pas venir. C'est un honneur, c'est un bonheur extrême. Je crois que c'est la plus belle chose dont peut rêver un comédien ou un danseur.
Alors, je n'ai pas la mémoire de tous les festivals d'Avignon, mais y a-t-il eu déjà des lectures dans cette cour?
J'aurais pu
me renseigner avant.
Hein. Cadio, on m'a dit, que c'était magnifique.
Parce que, est-ce que vous pensez que ça marche?
Il n'y avait pas de vent, sûrement.
La cour et l'idée de la lecture dans la cour, l'idée d'un moment comme ça d'intimité dans un espace aussi vaste?
Je pense, oui. C'est un peu une folie, c'est un spectacle très intimiste, puisque moi je suis assis à une table, il y a deux musiciens qui ne bougent pas non plus, et on ne va pas bouger de toute la soirée. Mais peut-être, comme les textes sont beaux, comme la musique est belle, peut-être ça peut être magique ou ça peut être raté, je ne vous promets rien.
Quelle sélection avez-vous fait des poèmes d'Apollinaire?
Alors, il y a deux recueils d'Apollinaire. Le premier a été écrit en 1905, ça s'appelle Alcool. Et il y a une dizaine de poèmes d'alcool. Et puis, la suite, ce sera pas une deuxième partie, quoi. Le spectacle doit durer environ 1h15. Et la suite, ça va être une dizaine de poèmes à loup, qui est un autre recueil qui est écrit pendant la guerre de 14-18, c'est-à-dire surtout en 16. Surtout en 16, voilà. Alors, ce sont deux recueils écrits à 10 ans d'intervalle qui sont assez intéressants, je trouve, parce que la première partie, je dis pas, est gaie, mais elle est quand même plus légère. Et la fin est assez plombée. Les poèmes à loup, c'est assez triste. Hein. C'est une histoire d'amour. Apollinaire était sur le front et il écrivait à une femme qu'il avait aimée et qu'elle aussi lui avait rendu cet amour, mais à ce moment-là, l'amour n'existait plus. Et il se rattachait à cette passion tout seul. C'est-à-dire qu'elle avait un autre amant, et elle lui écrivait qu'elle était très heureuse avec son autre amant, il s'appelait Toutou, et c'était aussi un militaire, et il devait être très sympathique d'ailleurs.
Ce spectacle, ces poèmes, Apollinaire, vous avez déjà lu, souvent lu même, est-ce qu'il y a des poèmes que vous lisez pour la première fois,
oui,
là dans la cour?
Oui. Oui, oui, il y en a 3 ou 4. Il y en aura 23 en tout. Et il y en a 3 ou 4 qui sont nouveaux, oui.
Et comment se fait cette sélection? Comment ils arrivent comme ça dans votre voix?
Je sais pas, sans raison, par passion. Il y en a qui me plaisent. Et puis, j'ai peur de m'habituer aussi à certains. Et je voudrais surtout pas, quoi. Je voudrais garder l'émotion, la fraîcheur de la première fois.
Parce que quelle relation vous avez avec Apollinaire? Est-ce que c'est vraiment celui qui est au sommet de votre panthéon? Est-ce que c'est un compagnon de chevet?
Oui, c'est un compagnon de chevet. C'est peut-être pas le poète que je préfère. Si je devais le classer dans mon palmarès des poètes, je le mettrais en second, derrière Rimbaud. Mais devant Verlaine, devant Baudelaire. Hein. Je crois que c'est un poète magnifique parce que c'est un poète en même temps très moderne. Il a vécu au début du siècle, au début du 20e siècle, au début de 1900, et c'est sûrement une des périodes les plus importantes de l'humanité. C'est une période où on a découvert la lumière. La lumière, déjà, c'est magnifique. Les avions, les voitures, enfin, c'est vraiment un tournant, je trouve, très important dans la société. Et Apollinaire parle de tout ça. Il tranche, dans ce sens-là, il tranche avec l'époque des Rimbaud, Baudelaire ou Verlaine. Voilà.
Oui, il est plus cubiste que Rimbaud ou Verlaine, non?
Il était cubiste, vous dites cubiste. Il était un grand ami de Picasso. Et il était, avant d'être poète, il était critique d'art. Il a fait beaucoup pour deux peintres, particulièrement Picasso, mais aussi le douanier Rousseau. C'est vraiment lui qui a découvert le douanier Rousseau. C'est différent, hein, comme peinture, Picasso et le douanier Rousseau. Mais c'était la même époque.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est un poète très, très repéré, très connu? Bien sûr, il est connu. Mais j'ai l'impression que c'est pas, parmi les poètes français, celui
oui.
le plus lu, le plus dit, le plus familier. Alors il y a un ou deux très grands poèmes que tout le monde connaît, mais après on ne sait pas forcément beaucoup plus. Oui. Est-ce qu'il y a un désir chez vous, Jean-Louis Trintignant, de faire connaître son œuvre aussi?
Non. Oui, mais pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est un poète moins connu que beaucoup de poètes. J'ai lu une anthologie très sérieuse, très belle de la poésie, qui est écrite par Maurice Nadeau. Et il ne parle pas ni dans le 19e siècle, ni dans le 20e siècle. Il ne parle d'Apollinaire. Il a complètement mis de côté, je ne sais pas. Alors ça veut dire que c'est peut-être pas un poète aussi connu, quoi. Il parle de Émile Verhaeren, des gens comme ça, mais pas d'Apollinaire. Je dis pas que c'est mal, hein, Émile Verhaeren. Mais je pense que c'est moins bien qu'Apollinaire, quand même.
Mais il parle même pas de Sous le pont Mirabeau, enfin, ce qu'on a tous appris à l'école?
Oui, non, il parle pas. Il parle, il cite pas du tout parmi les poètes. On pourrait penser que c'est le 19e, parce qu'il est né en 1880. Et il est mort en 1918. Mais il a écrit son œuvre surtout à partir de 1900, quoi.
Et vous l'avez découvert comment, Apollinaire? À l'école? Quand vous dites Sous le pont Mirabeau?
Vous parlez du pont Mirabeau, alors oui. Je ne le dirai pas, le pont Mirabeau. J'ai décidé de ne pas le dire parce que c'est pas le poème que je préfère. Et c'est le plus connu, je le disais, parce que c'était le plus connu. Mais je crois qu'à Avignon, il y a un tel niveau parmi le public que c'est pas la peine de dire les poèmes connus.
Non, mais est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous lisez Apollinaire? Pour vous, hein, j'entends,
oui.
Pas en scène.
Pardon. Je crois que c'est... je devais avoir 20 ans à peu près, quoi. Oui, j'ai découvert à ce moment-là. Oui, oui. Et alors, ma fille aussi avait une passion pour Apollinaire. Et même quand elle était petite, je lui enregistrais des cassettes. Je lui donnais. Et quand elle a été un peu plus grande, adolescente, vers 15-16 ans, elle, de son côté, enregistrait aussi des cassettes d'Apollinaire. et me les envoyait. On échangeait comme ça à peu près une fois par semaine, ça fait beaucoup, on échangeait nos cassettes. Et c'était vraiment un bonheur, quoi. On parlait pas beaucoup de poésie, mais on s'échangeait de la poésie.
Vous les avez lus ensemble, d'ailleurs.
Oui. Et on a fait deux spectacles depuis où on lisait les poèmes à Lou, ensemble.
Alors Jean-Louis Trintignant, dans la cour, vous allez donc être accompagné par David Mille, qui est absent.
Daniel
Mille, pardon. Et Grégoire Cornulic, qui est bien là. Comment... j'ai accroché votre nom.
Cornéluc,
pardon. Comment se passe le passage texte-musique, mots, notes?
Cornéluc est violoncelliste.
Ben, c'est... Le regard joue beaucoup. La complicité à trois, c'est vraiment un spectacle à trois, où la musique a vraiment une part quasi aussi importante que la poésie. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on construit à trois. D'ailleurs, la répétition, tous les changements qu'il y a eu, parce que le spectacle a beaucoup évolué pendant la tournée qu'on a fait l'année dernière. Voilà, ça a toujours été un travail à trois.
Et ce soir, vous allez être surpris.
Voilà.
Oui, on a des lignes assez précises, mais on a quand même une certaine liberté à travers ces lignes que nous nous sommes tracées. Et on a une liberté, ils peuvent me couper, même pendant un poème, s'ils ont envie, ou moi je peux faire la même chose. On a gardé quand même quelque chose d'un peu jazz.
Donc il y a une grande part d'improvisation.
Non, il n'y a pas une grande part, mais il y a une part d'improvisation possible.
J'espère qu'il n'y aura pas de...
Oh, c'est terrible, s'il y a un vent comme ça, c'est terrible.
Est-ce que vous avez peur, d'ailleurs? Et du vent et de l'espace.
Oui, j'ai très peur. Oh là là, j'ai l'angoisse.
Dit avec le sourire, je ne sais pas quoi en penser.
C'est vrai.
Merci Jean-Louis Trintignant. Y a-t-il des questions parmi le public? Un public nombreux, mais souvent un peu timide. On ne vous entend pas du tout.
Il faudrait un micro.
Ah. C'est complet et j'aimerais bien le voir.
Pardon ?
J'aimerais bien vous voir, mais c'est complet le spectacle.
Vous savez, il y a toujours des places qui sont vendues au dernier moment parce qu'il y a des systèmes de billetterie qui font qu'il reste toujours quand même au moins quelques places.
Parce que je vous aime beaucoup.
Au dernier moment.
Merci. Voilà. Dans la cour d'honneur, il y a 1970 places. Avec les strapontins, c'est beaucoup, mais il paraît que ça s'est vendu très vite, et ça m'a fait très plaisir, merci.
Aucun doigt ne se lève. Pensez-vous qu'ils connaissent tous les poèmes d'Apollinaire que vous allez lire ?
Non, je crois pas. Apollinaire a écrit 450 poèmes. Là, on en lit 23, c'est-à-dire c'est très peu, ça fait un cinquième, je crois, hein. Voilà. Non, ça fait 5 centièmes, ça fait un vingtième. On en lit 1/20, c'est pas beaucoup. Mais vraiment, j'ai choisi les poèmes sans ligne vraiment directrice, seulement par passion, par intérêt. Alors, après, on les a mis dans l'ordre, dans un certain ordre cohérent, mais pas forcément un ordre chronologique. Plutôt, on a été plutôt guidé raconter une histoire. D'abord une histoire assez heureuse, et puis à la fin, ça devient vraiment épouvantable. La guerre, au début, Apollinaire adorait la guerre. Il disait que c'est joli la guerre. Et puis à la fin, il disait plus ça, il disait c'est atroce.
Ce qui est assez extraordinaire dans les quelques poèmes que je peux connaître de lui, c'est comment il mêle l'amour et la guerre, comment détranché il raconte l'amour.
Oui. C'est vraiment ce qui fait la beauté de ses poèmes, c'est qu'il y a une situation très forte. C'est un homme qui vit une passion malheureuse pendant la guerre, où vraiment c'était horrible, où il se déshabillait pas, il paraît pendant des fois 2 semaines, et il pensait à cette femme et il écrivait à cette femme. C'est ce qui lui a permis de survivre, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est une situation très forte. Très forte.
Sans qu'il oublie d'avoir de l'humour.
Oui, et tout ça avec beaucoup d'humour, oui. Vous voulez que je vous dise un petit poème si personne ne pose de questions? C'est une lettre qu'il écrit pendant la guerre de 14 à un ami qui s'appelle André Dupont, qui lui a écrit, alors il lui répond. « Mon cher André Dupont, merci de votre carte, votre douce tartine et mère de ma tarte. J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. Il a fait bien mauvais, aujourd'hui c'est meilleur. L'artillerie est l'art de calculer les angles, la cavalerie, celui de bien serrer les sangles. Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes. Le reste est dans la joie et la vertu des hommes. J'ai sur un grand cheval fait 6 heures de route, genoux en sang. Mais que voulez-vous que ça foute? Tant d'hommes sur le front meurent en ce moment que c'est un vrai plaisir de saigner seulement. Il vente, il fait un froid de loup, la nuit est claire. Écrivez-moi souvent, Guillaume Apollinaire. »
Merci. Madame.
Qu'est-ce qui vous fait préférer la poésie d'Apollinaire après Rimbaud, avant Baudelaire et qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans la poésie d'Apollinaire? Je pense que peut-être vous venez d'y répondre en lisant ce poème, mais j'en suis pas sûre.
Oui, je trouve que c'est le poète, parmi les grands poètes, c'est le poète le plus moderne. Plus encore que Rimbaud, peut-être parce qu'il a vécu un peu plus tard, mais pas tellement plus tard. C'est cet humour mêlé de désespoir. Ça me touche personnellement. Moi, je suis un type assez désespéré, mais pas triste. Et j'aime ça, ça me correspond chez Apollinaire. C'est vraiment triste, c'est vraiment désespéré, quoi. Mais il n'est pas larmoyant, il n'est jamais ennuyeux. Même quand il souffre, il essaie de faire rire avec, quoi, voilà. C'est ce qui me touche beaucoup. En plus, d'un point de vue alors de poésie, il est prodigieux. Il a vraiment il a une légèreté, une invention poétique extraordinaire. Ses vers, je trouve, sont magiques. Ils sont souvent écrits en alexandrin. C'est-à-dire ce sont des vers de 12 pieds avec une césure après le 6e pied. Et quand on les lit à haute voix, quand on les dit à haute voix, on est stupéfait de la... On ne se rend pas compte que ce sont des vers. Et en même temps, ça chante. Ça me plaît beaucoup, voilà. Je ne connais pas beaucoup de poètes aussi grands. Peut-être Rimbaud a su faire peut-être mieux. Peut-être Aragon aussi, qui est un immense poète, je trouve, Aragon. Il a une façon d'écrire en vers qui est magnifique. Mais ce ne sont pas seulement les vers, parce que souvent, il a écrit des alexandrins, mais à côté de ça, il écrit en prose, des fois. Il n'y a pas de rime. C'est très beau, ça me plaît comme ça, quoi, c'est très beau comme ça.
Et il s'autorise toutes les libertés de vocabulaire.
Oui.
Il se permet foutre...
Voilà. Par exemple, dans le petit poème que j'ai dit, c'est « Mais que voulez-vous que ça foute ?» Je suis sûr que beaucoup de poètes auraient refusé ce mot, quoi. C'est pas un mot très joli, ni... Mais lui, je trouve beau qu'il arrive à écrire au milieu d'autres mots très choisis, des mots comme « Que voulez-vous que ça foute ?» C'est beau, je trouve.
Oui, merci. Je voudrais savoir comment se situe votre intervention par rapport à ce que nous venons de voir à la Cour d'honneur, c'est-à-dire... Histoire des larmes, et je suis sans.
C'est un peu le contraire. Moi, je ne bouge pas. On ne bougera pas. Et on va privilégier le son. C'est pour ça, j'insiste, mais c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait du vent ou qu'il n'y en ait pas. Parce que s'il y a un vent comme ça, on n'entend pas bien le son. Et je crois que la poésie, il faut partir du silence. Et s'il y a un vent comme ça, on peut pas, le silence n'existe pas. Le vent est trop présent. Alors, comment ça se situe? Vous savez, quand j'ai rencontré, ce que j'ai raconté tout à l'heure, là, quand j'ai rencontré Vincent Vaudrier, la programmation du festival était déjà terminée. Et quand il m'a proposé le 22, c'est-à-dire demain, le 22 juillet, c'était en principe un jour de relâche. C'est-à-dire, je viens un peu... je ne suis pas vraiment dans le festival, quoi. Je suis dans le festival, mais je profite d'un jour de relâche. Voilà. Sur le fond. Mais j'ai vu... Oui, j'ai vu deux spectacles dans la cour d'honneur que j'ai trouvé intéressants. Et je ne mets pas en doute surtout la sincérité des gens qui ont travaillé, quoi, qui ont fait les spectacles. Il est certain que c'est un peu difficile, mais tout est difficile, je crois. Tout est difficile. Ce que le demain, ça va être difficile aussi, je crois. D'abord, je ne sais pas si ça va marcher. C'est un spectacle intimiste devant 2000 personnes. Je ne sais pas si ça va marcher. Hier, j'ai vu Frères et Sœurs, que c'était difficile. C'était difficile. C'est difficile de toute façon. Merci.
Est-ce que vous aimez l'idée du risque, de ce risque-là?
Ah oui, 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 je l'ai absolument. Oui, oui, je me rends compte.
Des choses jamais acquises, quoi, à l'avance.
Pardon?
Des choses jamais acquises à l'avance.
Oui, 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 oui. Mais de notre côté, ça peut être aussi magique, ça peut être sublime. Si c'est une soirée tranquille, si le public accroche, écoute, la musique va sortir comme jamais elle a été entendue dans ce cadre, avec le ciel au-dessus, c'est magique. C'est bon, bien sûr, ça peut être rien ou ça peut être tout. Mais s'il n'y avait pas le risque que ce soit merveilleux, je ne le ferais pas.
Madame.
Parler de Je suis sans, car j'ai vu cette pièce au début. Et je considère, et je voudrais parler du vent aussi, puisque nous en avons et qu'on s'en régale là. Dans la cour du palais des papes, Je suis sans, c'était un grand vent.
Je ne comprends pas la question.
Il
n'y a pas de question, d'accord.
Non, mais
ce n'est pas Yann Fabre.
Ouais. Ouais.
Y a-t-il une autre
question? Non, vous voulez dire, madame, que vous voulez dire que le spectacle, c'était ça ou c'était. Dans les impondérables possibles, c'était un pas de chance.
C'est-à-dire que je connais la cour du Palais des Papes depuis très longtemps, j'ai vu des choses magnifiques. Je me méfiais un petit peu de ce Je suis sans. Et j'ai été bouleversée. Et j'ai été aussi admirative d'avoir osé une chose comme celle-là. Parce que le sang, ça nous concerne tous. Et que ce grand vent qui a tourbillonné là, il donne à réfléchir. Voilà, c'est tout. Ma remarque s'arrête là.
Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Ou réflexions? Monsieur. Madame, pardon.
Oui. Il me semble qu'on ne vous voit plus au cinéma et au théâtre. Est-ce que je me trompe?
Au cinéma, oui. J'ai arrêté de faire du cinéma il y a 9 ans. Le dernier film dans lequel j'ai tourné, c'était en 96. C'était un film de Patrice Chéreau, Ceux qui m'aiment prendront le train. Depuis, je n'ai plus fait de cinéma. Et je n'en ferai plus. Mais je fais beaucoup de théâtre, j'ai beaucoup joué au théâtre. Et je vais jouer encore au théâtre. À la rentrée de septembre, je vais jouer dans une pièce, une création qui s'appelle Moins 2, de Samuel Benchetrit, au Théâtre Héberto.
Vous faites des tournées?
Oui, je fais beaucoup de tournées, oui. J'aime beaucoup les tournées. Moi, je ne suis pas très parisien. J'ai vécu forcément à Paris, mais je n'ai jamais beaucoup aimé. Je suis resté très provincial. J'habite à Uzès, à côté d'ici. Et je vais à Paris le moins possible. Mais là, j'y vais parce que c'est un jeune auteur. La pièce me plaît beaucoup. Et je vais la jouer quelque temps. Même si ça marche, Je me ferai remplacer, je ne resterai pas très longtemps à Paris.
D'autres questions ou réflexions ? Oh, quelle exigence !
Alors le pont de Mirabeau, non. Un court poème. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends.
Merci Jean-Louis Trintignant et à vendredi.
Merci. Merci. La moitié de l'autre moitié de l'orchestre n'est pas arrivée, excusez-nous.
Merci, je vais demander à Christine Angot et à Mathilde Monnier de venir nous rejoindre sur cette estrade. Christine Angot, bonjour. Mathilde Monnier, bonjour. La place du singe, donc, au cloître des Célestins, première le 23 et jusqu'au 27. C'est un spectacle qui a été créé à Montpellier dans le cadre du festival de danse de Montpellier, auquel vous êtes bien évidemment associée, Mathilde Monnier. Comment s'est décidée cette collaboration, toutes les deux, sachant que vous êtes co-auteurs du spectacle, c'est vraiment La Place du Singe 2, Christine Angot et Mathilde Monnier, et sachant qu'en 97, vous aviez déjà travaillé ensemble avec un spectacle qui s'appelait Arrêtez, arrêtons, arrête. Visiblement, c'était pas un mot adressé entre vous, c'était juste un titre. Donc comment s'est fait cette collaboration qui a eu envie, qui a dégainé la première ?
Voyons, cette deuxième collaboration, on voulait dire.
Donc cette deuxième, oui.
Voilà. Eh bien, déjà parce que la première, ça s'était très bien passé.
C'est une bonne raison.
Voilà. Et que je crois que toutes les deux, on ne savait pas exactement ce que ça allait donner quand on a travaillé la première fois ensemble, qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire et qu'on s'est rendu compte que la danse de Mathilde Monnier... écoutant mon écriture, elle produisait quelque chose dans le spectacle sur scène qui en tout cas ça nous plaisait de montrer ça. Et je crois qu'à partir de là, le désir pas forcément exprimé est resté. Et moi, c'est vrai que j'avais dans un coin de ma tête, je pense que je n'osais pas lui dire que j'aurais effectivement adoré faire un texte sur scène, sachant qu'elle était à côté et qu'elle aurait éventuellement dansé, parce que Mathilde Monnier sur scène, c'est quelque chose de très beau.
Cette fois-ci, c'est un texte écrit spécifiquement pour ce spectacle, La Place du Singe. Arrêtons, arrêtez, arrête, c'est un texte préexistant.
Non, je l'avais écrit pour Mathilde.
Parce que qu'est-ce qui fait qu'un texte est écrit pour un spectacle ? Est-ce qu'il y a une spécificité de ce texte-là par rapport à vos autres textes ?
Bien sûr, la spécificité, c'est que le désir vient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la spécificité d'un texte écrit pour un chorégraphe ou pour un metteur en scène ou pour un acteur, c'est que un beau jour, cette personne vient vous voir et vous dit « j'aimerais que tu écrives quelque chose pour moi ». Pour que je le fasse sur scène. Alors que normalement, l'écriture, c'est un désir que vous trouvez à l'intérieur de vous.
Donc ça s'est passé comme ça, Mathilde Monnier.
Oui, ça s'est passé comme Christine a dit, hein, c'est-à-dire des dialogues qui produisent une écriture. Et c'est quelque chose que je dis souvent, ce qui m'intéresse avec Christine, c'est que je peux voir aussi d'où ça part. C'est-à-dire que je vois que dans nos conversations, dans nos dialogues, il y a quelque chose qui reste de cela, qui est de l'ordre de la parole, de l'ordre de ce que Christine entend. Et c'est ça, finalement, qu'on va retrouver aussi sur le plateau. Donc, je me sens... Mais bien sûr, moi, je n'écris pas. Et il est hors de question que je m'immisce dans l'écriture. Mais j'arrive quand même à savoir et à être quelque part dans l'écriture à cause de ces conversations.
Mais vous aimez l'écriture, parce que dans beaucoup de vos spectacles et dans Frères et Sœurs, que l'on peut voir actuellement à la Cour d'honneur, il y a aussi de l'écriture...
Mais qui n'aime pas l'écriture? Je veux dire, pourquoi les danseurs n'aimeraient pas l'écriture? Je crois que justement, la danse, si elle va un petit peu vers la parole, vers l'écriture, c'est parce qu'elle est aussi fascinée par la littérature, par l'écriture, et qu'elle a envie aussi de faire entendre des textes.
Alors comment, puisque vous êtes toutes les deux sur scène dans la Place du Singe, comment, Christine Angot, vous vivez sur scène? Est-ce que vous restez l'écrivain que vous êtes? Est-ce que vous devenez comédienne, peut-être danseuse?
Je reste l'écrivain que je suis, sachant que le plateau, la scène, est un endroit pour qu'il se passe quelque chose avec le public. Et que c'est une erreur de penser que les écrivains ne pourraient qu'être comme ça dans une situation très très solitaire et rêvassant à ce qu'ils vont écrire. Ça ne fait pas de moi une actrice. La preuve, c'est que si demain on me demandait de faire je sais pas quoi autre chose, Shakespeare ou qui vous voudrez, ça serait pas possible. Je ne peux faire que ce que j'écris.
Donc vous êtes un écrivain avec un corps.
Je pense franchement que tous les écrivains ont un corps, mais c'est vrai que, évidemment, peut-être parfois il faut le souligner, et que c'est surtout affirmer que l'écriture, ça va avec le corps.
Mathilde Monnier, est-ce que vous la considérez seulement comme une écrivain? Des quelques images que j'ai pu voir du spectacle, parce que je n'ai pu voir que quelques images, quelques brefs extraits comme ça, il y a une présence physique et presque une chorégraphie de Christine Angot, même s'il y a quelque chose d'un peu statique derrière la table, et pas toujours.
Oui, mais ça, c'est quelque chose que Christine sait faire, que j'ai pas besoin de lui apprendre. C'est-à-dire savoir comment être sur un plateau, savoir ce qu'est le plateau. Et c'est pour ça que j'ai vu Christine à plusieurs moments faire des lectures de ses textes. Et j'avais vu cette espèce d'intuition qu'elle a du plateau que n'a pas tout le monde. Hein. C'est pas parce qu'on est écrivain que forcément on sait ce que c'est le plateau. C'est deux choses très différentes. Et en voyant donc la façon dont Christine se mettait en scène d'une certaine manière dans ses lectures, j'ai compris que cette force qu'elle avait, cette présence, puisque c'est vraiment la question de la présence, je savais qu'on allait juste la partager, que j'avais pas besoin de la diriger. Je pouvais prendre le temps pour me diriger moi-même, ce qui quand même prend déjà pas mal de temps, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis pas montée de cette façon-là sur le plateau. Et donc, je pouvais faire confiance à Christine et prendre le temps pour travailler ma propre partition.
C'est-à-dire qu'à aucun moment, l'une ou l'autre avait interféré sur vous, sur le texte, ou vous, Christine Angot, sur la danse, la gestuelle de Mathilde Monnier?
Non, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait ensemble. Disons que idéalement, toutes les relations devraient être comme ça. C'est-à-dire que idéalement, c'est exactement comme dans une histoire d'amour. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de dire à l'autre « fais plutôt comme ci » ou « fais plutôt comme ça ». Ça devrait s'enclencher et se dire, et le dialogue devrait tout d'un coup circuler les deux partitions très différentes d'une personne et de l'autre personne, devraient s'accorder comme ça peut s'accorder sur un plateau, sans qu'il y ait aucune nécessité de dire « mets-toi plus à droite ou plus à gauche ».
Pour filer comme ça l'histoire d'amour, est-ce qu'il y a de l'improvisation, de la surprise entre vous sur le plateau, ou vous êtes dans des habitudes absolument, des habitudes, tout simplement? Non, est-ce qu'il y a une part d'improvisation pour être tout à fait sérieux? Est-ce que vous laissez de la liberté sur le plateau où vraiment tout est écrit, votre texte bien évidemment, Christine Angot, mais votre danse, Mathilde Monnier?
C'est une danse qui est en perpétuelle écoute sur ce texte. Donc je n'écoute pas tous les soirs le texte de la même façon. Donc en fait, c'est aussi une pièce qui travaille sur un état, parce que c'est ce que je dis souvent, c'est un peu une pièce où c'est un peu comme au cinéma. À partir du moment où on dit moteur, il faut être complètement dedans. Et donc je n'ai pas une chorégraphie fixe qui est immuable. Je suis vraiment en résonance avec ce qui peut se passer. Donc en fonction de ce soir-là, comment ça peut se passer, de ce que Christine va pouvoir rajouter ou pas, voilà, la pièce bouge.
Si vous voulez, à partir du moment, si moi je suis dans mon texte quand j'arrive, et que donc Mathilde, si moi je suis dedans, forcément elle m'écoute. Si je suis pas dedans, elle n'arrivera pas à m'entendre. Si moi je suis vraiment dans ce que j'ai à dire, elle m'écoute. Si elle m'écoute, eh bien forcément le public écoute aussi. Et à ce moment-là, je suis plus seule. On n'est pas seules toutes les deux et on est vraiment ensemble. Ça c'est. Mais ça, évidemment, il faut que je sois dedans. Et pour que je sois dedans, il faut que le texte, j'ai une certaine confiance dedans.
Comment vous pouvez ne pas être dedans et ne pas avoir confiance en votre texte?
Bien, disons que ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Mais à partir du moment où vous osez, où vous pensez que vous pouvez aller sur un plateau, c'est que forcément cette confiance, même si elle s'échappe par moment, vous savez que vous allez pouvoir la gripper de nouveau. Sinon, c'est pas possible. Et je crois que le fameux trac dont on parle toujours, c'est exactement l'expression de ça. C'est-à-dire, c'est la peur, tout d'un coup, de ne pas être dedans. Parce qu'évidemment que l'état, Mathilde parle beaucoup d'un état de danse, l'état qu'on peut avoir sur le plateau est un état très différent, extrêmement différent. Celui qu'on a, que la sensation qu'on a de soi-même dans le reste de la vie. La scène, le plateau n'est pas un endroit comme les autres, ce n'est pas la même chose. Et donc, à ce moment-là, il faut effectivement être dedans. Alors que dans la vie, enfin là, je sais très bien que parmi nous tous, il y a des tas de gens qui ne sont pas dedans. Il y en a des tas qui ne sont pas là. Ça, c'est évident. Nous-mêmes, est-ce que nous sommes à 100% là? Ce n'est pas obligatoire. Pas forcément. Mais sur le plateau, si tout d'un coup on n'est pas dedans, alors là, là c'est crise de confiance, plus rien n'existe, plus rien ne vaut le coup, etc.
Donc ce trac, vous l'avez?
Oui, comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que le trac, c'est l'expression de ça. C'est la peur de ne pas arriver à rejoindre l'état dans lequel vous devez être pour jouer. Et donc la confiance dans ce que vous avez à faire. Voilà. Et c'est que et le public, évidemment, vous aide à cette confiance.
Quand vous écrivez, Christine Angot, est-ce que vous pensez à cet état physique nécessaire pour le plateau et pour la profération?
Mais un état physique, il a pour propriété qu'on n'y pense pas. Il a pour propriété que tout d'un coup, un état physique, ce n'est pas quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui a lieu. Voilà. Et voilà, et ce n'est pas une chose qui se décide, ou alors vous le décidez en force. À ce moment-là, vous êtes sportif et vous dites « je vais soulever tant de kilos ». C'est tout à fait différent.
Mais vous pensez à l'idée de l'oral, de la parole dite, de la parole proférée dans l'écriture. Votre écriture est prise dans cette oralité.
Je ne sais pas si elle est prise dans l'oralité, mais en tout cas, écrire, c'est forcément s'adresser. Voilà. Alors, disons que si on s'adresse, tôt ou tard, on peut le faire dans un livre où c'est moins évident qu'on s'adresse, mais on peut le faire aussi à haute voix. C'est la question de l'adresse, qui me paraît extrêmement importante.
Alors, la place du singe, c'est le titre du spectacle. Point d'interrogation. Quelle est cette place du singe ?
Mathilde Monnier. Comme par hasard, on s'adresse à moi. mais moi, ce qui m'intéressait, c'était dans ce titre, c'était aussi l'idée de singer, c'est-à-dire c'est pas seulement l'animal, mais plutôt ce qui est un peu humain chez l'animal et c'est chez cet animal qui est le singe, c'est-à-dire sa façon qu'il a de regarder le monde et puis de renvoyer comme ça une sorte de miroir, de caricature de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il fait. Mais pas une caricature qui soit grotesque, mais simplement une sorte de retournement de la situation. C'est-à-dire que le singe, finalement, voilà, il va renvoyer à la fois de l'humour, du grincement, il va renvoyer une sorte de sous-texte, une sorte autre texte dans le texte, une sorte d'autre vision de ce qu'il entend. Voilà, donc c'est cette place-là qui est pas simple. C'est pas forcément que la mienne dans le spectacle, hein. C'est-à-dire c'est la place du singe en général, et c'est pas c'est ni la place de Christine ni la mienne, c'est une place qui est aussi cette place du miroir.
Mais qui est le singe?
Mais je crois que c'est la place de l'interprète aussi. De l'interprète. Si je peux lâcher le mot, c'est l'interprète au sens fort, au sens noble, tel qu'on en a besoin. L'interprète, c'est celui qui nous interprète. Et on a absolument besoin qu'il y ait des gens comme ça qui décident toute leur vie d'interpréter les autres. Je crois que c'est une chose très très importante et que évidemment que le théâtre, la danse, enfin la scène d'une manière générale repose sur cette question qu'il y a des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à nous interpréter.
Mais est-ce que vous vivez comme une interprète ?
Non. Non. Sinon, je ne serais pas écrivain. Sinon, je ne serais pas auteur.
Mais vous êtes sur scène.
Mais je suis sur scène parce que il n'y a pas de loi qui interdise aux auteurs de venir sur scène. Mais voilà.
Pas donc, encore.
Voilà, mais il est évident que je n'interprète pas mon texte. Je n'ai pas interprété mon texte. Ça serait ridicule. Des acteurs, des actrices l'ont fait et le feront, j'espère, encore, d'interpréter mes textes. Mais moi, je ne vais pas m'interpréter moi-même. Ça serait très mauvais et ça serait ridicule. Non, je me contente de dire ce texte.
Mathilde, vous vivez comme une interprète de ce texte ou comme co-auteur?
Moi, j'aime bien être... vous savez, c'est ça, c'est des mots, co-auteur... Oui, moi j'aime, enfin ce mot d'interprète, il me plaît, et même quand je danse des chorégraphies qui sont les miennes, je les interprète aussi. Je sais pas, ça me plaît aussi justement de me prêter, voilà, de me prêter à des textes, me prêter à des personnages et d'être à cet endroit-là.
Alors, la place du singe...
Je peux juste ajouter quelque chose, excusez-moi. J'aime beaucoup quand elle dit « ça me plaît de me prêter », quand elle dit « l'interprète, c'est quelqu'un qui se prête ». Je crois qu'un auteur ne se prête pas. Il peut éventuellement se donner. Mathilde se prête, effectivement, à être un objet à un moment donné, mais après elle va se reprendre et puis elle sera un autre objet que l'auteur... Eh bien, éventuellement, il se donne, mais il ne change pas d'objet à aucun moment.
Donc, dans la place du singe, vous vous donnez. Quel est le sujet? C'est Christine Angot?
Oh mon Dieu, non. Non. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas de... Je vois pas qui ça pourrait intéresser. Ce n'est pas... Il n'y aurait rien à interpréter. Non, le sujet, c'est, comme toujours, c'est le rapport qu'on a aux choses. C'est quelque chose qui me concerne, qui concerne Mathilde et qui forcément concerne chacune des personnes qui est dans le public. Sinon, il ne peut rien se passer. C'est-à-dire que ça s'adresse à quelque chose de très intime dans le public. Et ces choses intimes ne sont pas, comme on croit, les choses privées. Je crois que les choses les plus intimes sont les choses sociales. Et que, donc, c'est le rapport intime que nous avons, les uns et les autres, à ce qu'on appelle la bourgeoisie, à ce qu'on appelle le confort, l'art de vivre, que nous conseille la bourgeoisie.
Comment vous définiriez la bourgeoisie ?
Je crois que le but là n'est pas de définir des gens ou une classe sociale, mais vraiment un comportement, et que c'est beaucoup plus l'idée que il y a des sortes de, comme Mathilde le dit souvent, des valeurs qui appartiennent, ou en tout cas qui ont été saisies, qui ont été capturées par la bourgeoisie. La bourgeoisie a dit, ce qui est beau, nous savons ce que c'est et c'est à nous. Ce qui est intelligent, nous sommes intelligents et donc nous comprenons tout. Et ce qui est du domaine de la culture, c'est aussi notre domaine. Et je ne vous parle pas de ce qui est de la question de la littérature et de la langue, qui est vraiment, bien sûr, parlée au mieux par la bourgeoisie. Donc c'est vraiment la référence pour nous tous. Voilà, c'est ça. Et donc, évidemment que chacun d'entre nous, nous avons un rapport à cette référence-là, à cette référence de langage, de ce qui a été défini comme esthétique, etc.
Et comment vous définiriez, vous, votre rapport à ces valeurs, à cette notion, à la bourgeoisie ?
Conflictuel, comme chacun d'entre nous, je crois.
C'est là où c'est intime.
Exactement.
Pour vous et pour nous.
Évidemment. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui... Si vous voulez, la grande question serait, et c'est un peu ça le spectacle, je crois, comment ne pas en être quand on en est et que ça nous attrape par tous les bouts, et comment en être quand on sait que on n'en sera jamais parce qu'on n'y sera jamais accepté. Voilà, c'est un peu ce tiraillement-là, ce spectacle.
Vous raconteriez la même chose, Mathilde Monnier ? Vous êtes dans le même rapport conflictuel ?
Conflictuel différemment, je dirais. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est plus souffrant, on va dire. Parce que c'est peut-être une histoire aussi plus personnelle où il y a bon, du passé qui a été assez douloureuse. Donc sans doute un autre regard qui vient d'une chose que j'ai pu... dont j'ai eu besoin de me séparer, peut-être en allant vers la danse, ou effectivement qui échappait un peu à une identification d'un milieu social. Donc peut-être un rapport plus personnel, je dirais.
Mais est-ce que vous définiriez le spectacle comme l'a défini Christine Angot dans ses...
Moi, ce qui m'intéressait...
En être ou ne pas en être.
Voilà, dans ce sujet, c'est ce qu'on pourrait acheter ou ce qu'on pourrait ne pas acheter, ce qu'on pourrait posséder ou ce qu'on pourrait ne pas posséder, et comment on est quand même dans une société où on cherche à posséder les choses. Voilà cette idée de la possession, cette idée de l'achat, et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait pour posséder ? Est-ce que l'art ça s'achète ? Est-ce qu'on peut posséder ? Est-ce qu'on peut acheter l'imaginaire ?
Donc vous, l'interprète et la chorégraphe, vous vous prêtez mais vous vous vendez pas.
Vous savez, ça, je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, des phrases comme ça.
Pour faire écho à ce que disait Christine Angot sur la différence entre l'interprète et l'auteur, l'un se donne quand l'autre se prête.
Non, je n'ai pas de réponse.
Oh ben moi, j'en ai une. Je peux vous dire que non, elle ne se donne pas et elle ne se vend pas. Elle n'est pas à vendre.
Mathilde Monnier, avant de passer aux questions du public, quel lien vous faites entre la place du singe et Frères et Sœurs que l'on peut voir dans la cour ?
Mais je crois que c'est deux pièces en fait qui parlent de l'expérience ou de l'exercice finalement qu'on a donc dans Frères et Sœurs avec ce qu'est un groupe finalement, c'est-à-dire comment l'exercice quand on est enfant d'un petit groupe, d'une communauté, finalement va structurer tout notre rapport avec la communauté plus tard dans la vie. Et comment c'est effectivement une sorte de base, de repère qu'on va porter en soi toute sa vie, qui va voilà donner des clés ou au contraire bloquer finalement le rapport qu'on a à l'autre. Et puis dans la place du singe, c'est comment finalement on accepte ou pas sa place d'origine, ou comment finalement on est en conflit, ou comment on a honte, ou comment on est fier de cette place-là. Donc je pense que c'est deux spectacles qui parlent comme ça de cette place, non pas autobiographique, mais une place de base, de départ.
Merci Mathilde Monnier. Y a-t-il des questions parmi le public? Madame, monsieur.
Voilà, ce n'est pas une question, c'est juste une définition de la bourgeoisie. Elle est de Jean Giraudoux. J'appelle bourgeois ce qui est par rapport à ce qui tente à être. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez, même s'il faut échapper aux définitions?
Est-ce que vous pouvez juste la répéter? J'appelle bourgeois
ce qui est par rapport à ce qui tente à être. C'est-à-dire, il y aurait un élan, une dynamique, justement, dont il faudrait sortir pour sortir de cette bourgeoisie et de cette contrainte.
Oui, c'est sûrement intéressant, oui, c'est pas mal. Ouais.
Bonjour, je ne sais pas si vous en avez parlé au début, je vous prie de m'excuser, mais je pose quand même la question. Est-ce que c'est la première fois, Christine Angot, que vous vous prêtez à cet exercice de monter sur scène en tant qu'auteur?
Non, ce n'est pas la première fois. Pardon. Et pas la dernière.
J'espère bien.
Depuis le début, pratiquement, vos premiers textes sont des textes de théâtre, enfin, romans et théâtre, et depuis le début, vous avez lu vos
textes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement, c'est-à-dire que je ne me suis pas très bien rendu compte de ce qui se passait au début, mais c'est vrai que dès que j'ai publié mon premier roman en 90, et qu'on m'a invité dans des radios, dans ma ville, dans ma région, enfin, comme ça, très... Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'agitation autour de moi et pas beaucoup de presse. Mais en tout cas, dès qu'on m'a demandé d'intervenir, ou même pour expliquer aux représentants de la maison d'édition, plutôt que de dire, voilà, le livre, ça raconte ci et ça, je demandais, est-ce que c'est possible à la radio que je lise un morceau? Voilà. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à convaincre les gens de cette façon, d'une manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus juste, et que ça coupait un peu court, hein, aux questions et à savoir si c'était de la littérature ou si ça n'en était pas. C'était tout d'un coup, il y avait une évidence. Et après, donc, dans les librairies, j'ai fait ça, et puis après je me suis dit que les librairies c'était trop petit et que je préférais les théâtres, surtout parce que dans les théâtres, les gens comprennent que ça ne suffit pas de vous donner un verre de champagne après avoir fait une lecture. Comprennent que c'est plus compliqué.
Monsieur.
Je voulais savoir comment vous vous êtes trouvé dans After Before, puisque vous jouez un rôle, ou vous ne jouez pas un rôle. Vous êtes prêté.
Oh, répétez, parce que je crois que les gens n'ont pas
dans
bien entendu.
After Before, vous vous êtes prêté à un jeu, et je voulais savoir comment vous vous êtes trouvé vous-même.
Ben, je me suis trouvé ridicule. Pour vous dire la vérité. Mais là, vraiment, je crois que on parlait tout à l'heure de se prêter ou pas de se prêter. Il est évident que je me suis effectivement prêtée. Et bon, voilà, oui, je me suis... Voilà, il avait besoin d'un matériau et il m'a demandé si j'acceptais d'être ce matériau. Très bien, voilà, mais je ne suis pas auteur du tout. Voilà, et oui, je me suis trouvée ridicule. Mais vous savez, les gens, ça, c'est pas moi, tout le monde se trouve ridicule. Comment ? Bon, ben, comique, mais mon but n'était pas d'être comique.
Hein.
Donc, je me suis trouvée ridicule puisque j'étais comique, alors que moi, je trouve que je disais des choses extrêmement importantes. Et comment ça se fait que c'était comique?
C'était juste ce que vous avez dit, mais parce que vous avez dit qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça.
Ben, prenez le micro, parce que sinon, ça va être entre nous.
Moi, je ne vous ai pas trouvé ridicule, donc je vous ai trouvé comique. Et vous êtes peut-être comique simplement parce que vous ajoutez « il n'y a que ça ». Vous dites des choses profondes, mais tout d'un coup, il n'y aurait qu'une seule chose. Alors c'est ça qui fait rire, on dit... Enfin, c'est enfantin,
voyez,
c'est
enfantin. Voyez, c'est ridicule, dites le mot,
oui,
c'est ridicule.
Non, mais c'est pas ridicule dans le sens où on vous trouve nul. C'est sympathique, je veux dire, c'est pas antipathique.
Bon, ben écoutez, très bien.
Mais vous refusez absolument d'être comique?
Non, pas du tout, je refuse pas. Et vous savez... Je pense quand même que le grand truc du théâtre, de la scène, parce que je ne veux pas employer le mot théâtre systématiquement, mais de toutes les paroles, de la parole, à partir du moment où ce n'est pas la parole de la communication, mais à partir du moment où c'est la parole adressée, à partir du moment où c'est la parole artistique, c'est que les choses soient indémêlables, à savoir que les choses, que ce qui est hautement tragique, comme une histoire d'inceste, par exemple, Oedipe, soit au plus haut point comique. Voilà. Alors que quand vous lisez évidemment le procès d'Angers, il n'y a absolument rien de comique. Et c'est ça qui est, alors là, effectivement, C'est même pas ridicule, c'est juste désespérant, et ce n'est pas tragique non plus. Alors que, bien sûr, que si tout d'un coup il y a une parole d'écrivain, alors tout ça devient complètement basculable. Et le comique et le tragique deviennent vraiment joints et indissociables. Et c'est là que ça devient intéressant.
D'autres questions ? Monsieur, au fond, en bleu. Le monsieur debout qui s'avance.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport entre l'interprète et l'auteur. Ayant fréquenté longtemps moi-même un auteur en tant qu'interprète pendant des années, même 12 ans, 13 ans, et... cette histoire de se prêter me convient pas tout à fait, parce que je pense que le texte en lui-même est une sorte de bloc, ne respire pas tout seul. Le texte a des trous, et c'est dans les trous que va l'interprète. Donc c'est plus quelque chose qui va à la rencontre. Et l'interprète doit savoir trouver les trous, doit savoir trouver la fragilité, doit savoir aussi... créer son œuvre et devenir auteur à partir de ce texte qui peut devenir lettre morte, comme une feuille se détache. Il y a un peu ça, et il est lettre morte pour l'interprète qui l'a traversé, mais un autre interprète peut faire revivre cette feuille vivante. Disons que moi je trouve ça un peu sec, je dirais, quoi, de dire auteur et interprète, c'est plus complexe que ce qui est dit là. Voilà.
Enfin, moi, c'est... Non, mais bien sûr, vous avez raison sur un point, mais sur un autre, je crois que vous avez tort. En revanche, je crois que c'est bien sûr que loin de moi l'idée de dévaluer l'interprète. Vous pouvez même pas savoir à quel point. J'en suis folle. Donc vraiment, c'est pas du tout mon but. Cela dit, je pense pas du tout que, si vous voulez, s'il n'y a pas d'interprète sur un plateau, c'est pas pour autant que le texte va devenir lettre morte. Il faut pas oublier que chaque lecteur, évidemment, est interprète du texte qu'il a sous les yeux. Et donc, c'est faux. Le texte dans un livre, ce n'est pas une chose morte, ce n'est pas l'être morte, c'est quelque chose de très vivant. Simplement, il suffit de l'ouvrir.
Mathilde Meunier, est-ce que vous pensez que l'interprète, justement, se love dans les trous du texte ?
Vous savez, moi, j'ai toujours des difficultés, justement, oui. Sur cette césure. On fait des colloques et des colloques sur qui est auteur, qui est interprète. J'en ai fait des tonnes dans ma vie. J'ai jamais réussi à répondre à cette question. Non. Donc là, véritablement... Je passe tout le temps de l'un à l'autre avec plaisir, bonheur, indifférence. Mais les danseurs qui travaillent avec moi sont aussi auteurs de leur propre travail. Ils sont interprètes quand ils sont avec moi. On n'est plus dans une espèce de catégorisation comme ça. Voilà.
Je crois qu'elle est impatiente de jouer. Je crois que ça ne l'intéresse pas du tout de parler. Moi, ça m'intéresse bien, j'aime bien. Mais Mathilde, elle n'aime pas ça. Et ce qu'elle aime, c'est d'être sur un plateau et elle est impatiente d'y aller.
Une dernière question peut-être, oui, ou une ou deux.
Justement, ma question était, enfin, ma requête était, tout à l'heure on a demandé à Jean-Louis Trintignant de nous dire un poème, est-ce que Mathilde Meunier ne pourrait pas nous faire quelques pas de danse ici ?
Et vous,
il
n'y
a pas beaucoup d'espace, hein.
Il y a ici un plateau, un petit bout de plateau.
Je crois que c'est quand même très très compliqué ce que vous demandez.
Je ne me suis pas chauffée, parce que pour danser, il faut se chauffer. On fait 1h30 de yoga, après on se chauffe. Oui. Après. Vous savez, c'est long, je ne veux pas me blesser.
Dites non.
Je dis non.
Je croyais que vous alliez demander à Christine Angot de lire quelques extraits, c'était plus logique. C'est un piège là.
Christine Angot, je peux la lire moi-même, mais je n'ai jamais vu danser madame.
Vous pouvez y aller, je crois qu'il reste...
Alors, une autre question.
Fait que Christine Angot nous lise quelque chose.
Merci.
Bon. Alors écoutez, il se trouve que tout à l'heure avec Mathilde, nous allons répéter le spectacle que nous devons faire. Donc normalement, moi j'ai rien, hein, j'ai pas de livre, hein, sauf si t'en as un.
Non, j'ai pas pris, j'ai pris le journal.
Donc ou quelqu'un a un livre de moi, là comme ça, que je peux prendre là, donc je peux lire un morceau.
Parce que La Place du Singe n'est pas un livre encore. Sujet Ango.
Bon. Merci. Et sinon, je peux lire un bout du spectacle.
Ah, ben voilà.
Donc, vous avez voté pour. D'accord. Alors. Voyons. Une page, deux pages.
C'est à vous de voir. Je pense qu'il n'aurait rien à contre deux pages. Regardez, personne n'est parti.
Bon, c'est compliqué, hein. Elle est à la cour d'honneur en ce moment. Elle a bien géré sa carrière. Elle a de qui tenir. Elle est née dans une famille dont le grand-père était académicien. Est-ce que Georges Izard dit encore quelque chose à quelqu'un? L'oncle était cardinal. Est-ce que cardinal Danielou dit encore quelque chose à quelqu'un? Le corps du bourgeois est un corps hérité, avec le porté de la tête, la taille, les bras bien longs, et, on est tous minces, la peau claire. Mathilde, un des seuls souvenirs de son enfance, une fugue à 2 ans. La rue, quelques visions de son départ, un matin, toute seule dans sa tête avec son porté de tête, mais toute seule. Alors, des stratégies d'absence permanente, des procédures d'évasion, des échappatoires. À part ça, aucun souvenir de son enfance, aucun. Espèce de vide. Certains se disent des révoltés, qui pourraient tout envoyer valdinguer du jour au lendemain. Ils pourraient tout envoyer valdinguer. Mais bon, ils ne le feront pas. J'aimerais être vous. J'aimerais être vous. Lâche-t-il parfois, prêt à tout envoyer valdinguer, ne le faisant jamais. Et puis plus tard, les gens qui vont sur scène, les maisons, le week-end, les vacances, pouvoir se déplacer, pouvoir circuler, très important, les maisons avec le chauffeur, tout savoir, être partout, être intelligent, être partout, c'est bien. Donc des clés, des maisons, des voitures, des allers-retours, des accès. Avoir accès à tout, des changements d'air constants, c'est important. Mais, il ne faut pas se moquer des familles de possédants. Ils n'ont pas tort, surtout. En plus, ils nous aiment. Ils aiment les artistes et les gens qui vont sur scène. Pas de scène chez eux, mais ils assistent aux pots de première après les spectacles. Sans eux, nous ne serions pas là. On ne serait rien. Ils tiennent tous les relais de la connaissance, les fauteuils d'invités, les places dans les conseils d'administration culturelle, la presse, l'édition, c'est eux. Encore et toujours eux. Ce sont eux qui nous tiennent, eux qui nous aiment, eux qui nous ont reconnus. Ils aiment les gens qui vont sur scène. C'est leur paradoxe. Ou peut-être leur soupape, là encore. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Ça reste un mystère. Ils aiment les livres, par-dessus tout. Ils n'aimeraient pas vivre les scènes qui sont vécues dans les livres, quoique, on ne peut pas savoir, mais ils aiment les livres, les beaux livres surtout. Ils sont bibliophiles, ils ont sacralisé l'écrit, La lecture est la base de tout. Bibliothèque, ouvrage, le talent par-dessus tout, œuvre. Talent. Ils admirent notre talent. Ils aiment les gens qui ont du talent. Ils savent le reconnaître. Après tout le monde, mais quand même. Ils contribuent à la prolifération du bon goût en art. Ils sont cultivés. Ils connaissent des vers par cœur. L'entraînement depuis tant de générations. Il y a aussi des ploucs chez eux. Des ploucs réac. Mais la plupart ont dîné, ont du nez. Les tableaux. Les ballets. Les découvertes. Les ventes. Christie's. Sotheby's. Ça les rend heureux. Ça fait partie des plaisirs de la vie, la scène. Et non pas les scènes. Mais les livres sont au-dessus de tout. Et idéalement un manuscrit. Par exemple, trois mots de la main d'Antonin Artaud ou de celle de René Char, comme « J'ai mal et je suis léger ».
Je vous ai vu murmurer le texte, Mathilde Monnier.
Ben parce que j'ai toujours du plaisir à le réentendre.
Y a-t-il une question, une dernière question ? Madame ?
Alors la réaction des gens qui applaudissent me semble suspecte. Il y en a qui se sentent jubilés par rapport à ce que vous venez de lire, ils se sentent concernés, ils se sentent ceux qui aiment. Et puis il y en a d'autres qui se disent, oulala, mais c'est très critique.
Et vous ?
Moi je suis entre deux eaux, je ne sais pas où me mettre.
Et voilà, il a le problème, il faut savoir où se mettre.
Je suis le singe.
Peut-on savoir quel est le titre de votre prochain roman ?
Je ne le sais pas moi-même, le titre. Je suis en train de l'écrire.
Dernière question. Plus personne. Christine Angot, Mathilde Monnier, merci beaucoup.
Merci.
La place du singe, donc, au Quatre des Célestins, le 23 jusqu'au 27. Merci.